Oxford,
mécanisme velouté,
mixage fusionnel.
Bonsoir, bonsoir. C'est le troisième jour des entrevues Balfour, mais c'est notre deuxième plateau du premier jour. Moi, c'est EQ et je suis avec Nicolas et Olivier de Fluxfort. Nous recevrons aujourd'hui Anton Balakian. Est-ce que je prononce bien, j'espère?
Oui,
et Léo Couture, qui ont réalisé avec Mathéo Eustachon, qui n'est pas là malheureusement, Laurent dans le vent, dans la compétition long métrage. Donc, bienvenue d'abord.
Oh là, on n'est pas en compétition.
Non, c'est, non une... Oh, c'est... J'ai fait
c'est une avant-première.
C'est ok, c'est une avant-première.
On est quand même très contents.
Et bonjour à tous et à toutes.
Ok, donc pour vous situer brièvement un peu dans votre... C'est votre deuxième long métrage déjà. Et vous avez réalisé Mourir à Ibiza. D'abord... à trio, donc c'est une occasion rare, je pense, de voir trois personnes réaliser un film, déjà. Et vous avez rencontré quand à Cinéfabrique. Et voilà, votre deuxième long métrage, c'est Laurent dans le vent. Ça parle d'histoire d'un jeune homme de 29 ans, Laurent, et qui a un peu perdu son ambition, son désir de vivre, et pour le trouver, il va dans une sorte de hôtel resort de station de ski, et là il fait une série de rencontres avec toute une sorte de personnalité très haute en couleur, entre autres une vieille dame qui vit toute seule, une femme qui vit avec son fils, obsédée par des Vikings. Il y a aussi une sorte de berger qui cherche
une chèvre
magique. Donc voilà un peu le paysage. Donc dès le premier plan de film, on débarque sur une sorte de réalisme magique où Laurent descendre des ciels. Donc, est-ce que le personnage de Laurent est vraiment, vous est aussi descendu du ciel? Comment vous avez trouvé ce personnage?
Ce personnage, en fait, c'est un mélange. Et d'ailleurs, le projet du film, en général, il est né de la rencontre entre, d'une part, un sentiment de grand stress par rapport à l'avenir qu'on avait l'impression, nous, de ressentir intimement, mais aussi beaucoup chez des amis autour de nous, de notre âge. Et donc ce sentiment-là un peu général dont on avait envie de parler dans un film, et un truc un petit peu plus fait divers de l'histoire d'un ami d'ami d'ami qu'on nous avait raconté, qui s'est retrouvé à vivre pendant ce qui était censé être 2-3 semaines dans une station de ski à l'intersaison, donc à l'intersaison quand il n'y a personne, pour se remettre sur pied. Et en fait, ce mec-là est resté 2 ans. Et donc ça a attisé notre envie d'écrire en se demandant qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de ses journées.
Moi, ce qui m'étonnait dans ce personnage, parce que moi aussi j'ai 29 ans d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a perdu l'ambition, mais c'est quand même assez rare d'avoir ce type de personnage, parce qu'on est dans la réalité tellement... derrière quelque chose, courir derrière quelque chose. Donc ça m'a vraiment... Ça m'a beaucoup plu de voir un personnage qui cherche des êtres humains plutôt que des buts précis. Donc le désir le plus grand qu'il a, c'est d'être aimé et aimé. Donc c'est rare d'avoir ce type de personnage. Est-ce que vous sentez que c'est quand même une sorte de l'opposé des attentes de ce qu'on porterait dans des cinémas quand on voit des jeunes?
Alors c'est dur de parler pour tout le cinéma, je pense qu'il y a quand même pas mal de films.
Au moins des Français, disons.
Ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de films qui parlent de ça aujourd'hui. Je pense que c'est normal parce que c'est... Enfin, comment dire... On se rend compte qu'il y a beaucoup de rêves qui nous ont été proposés dans le monde capitaliste et libéral qui paraissent quand même de moins en moins atteignables et de plus en plus malsains. Et du coup, beaucoup d'institutions... je pense qu'ils paraissent oppressantes pour beaucoup de gens, quoi, que ce soit le travail, mais notamment le travail salarié, que ce soit différentes structures familiales, que ce soit où justement on trouve plus beaucoup le ni le temps ni le ni la possibilité d'aimer d'être aimé, je pense. Et du coup, je pense que ça vient de là et qu'on avait envie de parler de Laurent et de tous les autres personnages pour parler de ça en fait, pour parler de plein de gens qui se retrouvent marginalisés parce qu'ils aimeraient bien, ou en tout cas ils ont, parce qu'en fait ça a été violent pour eux d'essayer de se conformer. C'est plus ça. Parce que tout à l'heure tu disais que ils venaient chercher dans la station de ski un désir de vie, mais en fait il vient pas chercher grand chose au début. Lui, au début, lui, il est plutôt désespéré de se retrouver là. Il a pas envie d'être là. Lui, il subit la situation, et c'est au cours du film qu'il va se rendre compte qu'il peut peut-être en fait chercher quelque chose plutôt que de subir cet exil, quoi. Il peut en faire un, il peut choisir d'en faire un mode de vie.
Et moi, j'ai une question sur la construction, l'inspiration du film. Laurent, en fait, c'est un peu l'homme de nulle part qui arrive dans une contrée lointaine, une vallée perdue, et qui va, en les rencontrant, bouleverser les âmes des habitants d'une communauté. Et ça, c'est un schéma qu'on rencontre dans le western. C'est un schéma classique du western. Et je voulais vous poser la question à tous les deux, mais peut-être d'abord à Léo, par rapport à la musique. Parce que c'est vrai que l'usage comme ça d'une musique qui va ponctuer certains moments du film avec des guitares décharnées qui sonnent un petit peu comme ce qu'on a pu entendre dans certains westerns. Alors cette inspiration western, elle était là dès le début de l'écriture du film, ou c'est quelque chose qui peu à peu est monté comme ça dans la fabrication?
Mais pas tant que ça, parce que j'ai l'impression qu'en fait, évidemment que la figure de l'étranger qui arrive dans un village désert, oui, c'est direct, c'est un truc de western, enfin, on se l'est dit rapidement, mais je crois que le film, il s'en écarte très rapidement. Et en tout cas, à aucun moment, je pense qu'on se le formulait en disant on va faire un western moderne ou tu vois, un truc aussi précis que ça, quoi. Et pour la musique, en effet, il y a parce que même il y a le sifflement qui est, enfin, il y a des musiques de western hyper connues qui utilisent un sifflement. Peut-être même les tubes de western, c'est un sifflement. Mais encore une fois, je crois que c'est pas venu vraiment. Bon, forcément, on est toujours inspiré sans s'en rendre compte, quoi. Mais je crois que ce qui était plus conscient, c'est, tu parlais de quelque chose de décharné, et ça pour le coup c'était un petit peu plus volontaire, même si encore une fois c'est, les choses elles viennent quand même un peu aussi par magie, quoi, un peu. Mais le fait que on allait faire quelque chose de troué et qui boite et qui est un peu dissonant, ça on le recherchait, quoi, parce que je pense que c'était, ça allait accompagner ce personnage là, et même tous les personnages ils ont tous quelque chose d'un peu de boiteux. Et la musique, elle incarne ça, et elle permet aussi de mettre le sifflement. Moi, j'ai l'impression qu'elle permet de mettre de la douceur un peu, au même titre que Laurent, à cause de ses trous et un peu de sa manière de boiter. Je trouve qu'il a un côté un peu ange, comme tu disais aussi, il a un côté guérisseur un peu pour les autres, quoi.
D'ailleurs, sur le western, c'est marrant parce que, enfin, on pose souvent la question, et à chaque fois, on a tendance à dire que oui, qu'il y a une situation initiale qui y ressemblerait, qu'après, on s'en écarte. Je crois que j'ai compris en parlant hier avec, enfin, ou tout à l'heure en fait, avec Louise Aymon et Marine Atlan de L'Englouti, où elle, en fait, c'est vrai que qu'on a vu hier soir, en fait, leur situation, elle, pour le coup, elle la décrivait bien en parlant du fait qu'elle, elle s'est frottée vraiment à cette situation de western, c'est-à-dire que c'était un personnage solitaire qui débarquait dans une communauté et qui essayait de s'y faire une place, de gré ou de force, quoi. Et là où je crois que c'est très vrai pour elle, en fait, ça marche pas pour nous. Et c'est pour ça que nous, en fait, c'était pas tant notre question, parce qu'en fait, nous, il n'y a pas de communauté. Nous, il arrive dans un endroit où tellement éclaté, c'est-à-dire où les gens vivent dans des...
Il n'y a plus de communauté.
Voilà. Les gens, ils vivent dans leur solitude.
Ils sont loin les uns des autres.
Exactement. Et au centre de tout ça, il y a la station de ski. Qui a, et on peut en parler du fait que ça a potentiellement fait aussi éclater une forme de communauté à la montagne. Mais du coup, ouais, nous, là où ce qui nous intéressait, du coup, c'était plutôt de faire réexister une communauté grâce au film. C'est-à-dire que tous ces gens dans le même film reforment une communauté un peu virtuelle.
Et grâce à ce personnage-là qui a rien d'autre à faire que de recréer une communauté.
Du coup, il forme une communauté, il essaie pas du tout de se faire une place dans une qui existe, quoi.
Il y a un sentiment très fort que j'ai senti en regardant le film, c'est de se donner trop. Donc quand il veut créer des liens de avec le photographe, il veut déménager avec lui à Marseille. Tu sens que il a passé un peu la limite de ce que leur relation était en fait autorise à faire. Mais je pense que c'est cette inexistence de la communauté, ça crée aussi ce genre de situation où on ne sait pas où est la limite de nos liens, et on se perd un peu dans nos repas ou dans nos expressions de l'amour. Et donc je pense que c'est très très pertinent et ça relève beaucoup de notre société contemporaine, que je pense beaucoup de gens ont dû ressentir aussi en regardant. C'est un peu, je veux pas dire cringe, mais ça c'est un peu au bord de ce sentiment de ah, j'ai fait une faute.
C'est allé un peu trop loin, quoi.
Ouais. Vous voulez rebondir un peu?
Ouais, bah nous, du coup, ouais, ça nous paraissait. C'est ce qui. Comment dire? Ouais, c'est que pour ce besoin d'amour dont on parle du personnage et presque ce désespoir qu'il a d'entrer dans des vies parce qu'il pense que la sienne vaut pas le coup. En fait, c'est pas juste une posture angélique, comme on disait tout à l'heure, où il viendrait parfaitement à la bonne distance, réparer la vie des gens. En fait, quand même, il s'incruste dans la vie des gens. Mmh. Et ça, ça comporte forcément une part de violence et une part de
maladresse,
ouais, de trop grande proximité. Enfin, et parce qu'en fait, et c'est ça aussi qui nous plaisait, c'est qu'on voulait pas tenir un discours en disant ah oui, il y a la solitude, c'est mal, il y a communauté, c'est bien, et il faut absolument que tout le monde fasse communauté, parce qu'il y a une très grande violence qui s'exerce dans les communautés aussi. Donc c'était plus plutôt de se dire, c'est intéressant qu'à la montagne, il y a des gens qui, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent chercher une forme de solitude, mais pour certains c'est un refuge et ils veulent garder cette solitude. C'est le cas de Fares, par exemple, qui prend du plaisir à être le photographe dont on parlait, qui prend du plaisir à être avec Laurent, mais qui lui demande pas d'entrer dans sa vie plus que ça, là où d'autres lui demandent de rester avec eux. Enfin voilà, il y a c'était de dessiner quand même plusieurs modalités de relations et de comment la solitude peut être à la fois un refuge et une prison, et qui voilà, c'est, ça ressemble à la vie. Enfin, il faut dealer avec ça, quoi.
Et ces modalités de relation, il y a une sorte d'évolution au cours du film. Est-ce que pendant le processus d'écriture, est-ce que c'était prédéfini comment ces relations auraient évolué, ou bien est-ce que c'est à travers les personnages, les comédiens que la manière dont Laurent va interagir avec eux ont changé? Comment ça s'est déroulé, ces relations?
Je crois que c'était très écrit, ce qui se passe, c'est-à-dire que le scénario était quand même très précis. Parce qu'en fait, je pense que les personnages se sont inventés en même temps qu'on imaginait, je sais pas, tous les genres de relations que Laurent pourrait avoir. Après, ce qui a changé, c'est qu'après, ce qui s'invente pas, c'est comment deux acteurs jouent ensemble, quoi. Et comment, tout d'un coup, on avait Baptiste comme personnage principal, par exemple, et je pense que c'était pas un hasard qu'on prenne. Si on a pris Benoît, qui joue l'éleveur, et Monique, qui joue la vieille dame qu'ils rencontrent, que eux on a rencontré dans la vallée où on tournait, je pense que c'est pas un hasard qu'on les ait pris parce qu'on avait Baptiste, par exemple, parce que sûrement que si un autre acteur jouait Laurent, c'était dans leur friction qu'on pouvait imaginer. En fait, c'est toujours comme ça, c'est dans les frictions qu'on imagine entre les acteurs qu'on se dit qu'il va y avoir une relation intéressante à filmer. Ouais.
Et dans le film, il y a, puisqu'on parle d'écriture et de à qui vous pensiez déjà pendant le processus d'écriture pour interpréter vos personnages, il y a une présence forte, marquée, puissante du cinéma français, qui est Béatrice Dalle, qui imprime au film quelque part sa couleur, sa tonalité très singulière. Est-ce que vous pensiez à elle justement quand vous avez écrit le film pour ce rôle?
Ouais, on a pensé très tôt à elle, même au tout début, sans forcément se dire qu'elle allait jouer le personnage, mais comme type de personne, quoi, comme archétype, ou comme pour dépasser l'archétype qu'on avait d'une femme qui vit seule avec son fils, un moment pour mettre quelque chose un peu plus de plus incarné dessus quand on écrivait, en réfléchissant, au bout d'un moment on se dit ah tiens, mais imagine c'est Béatrice Dalle qui le ferait, et là tout de suite ça nous a guidé, quoi, dans l'écriture, aussi parce que elle est le personnage dont tu parlais, le personnage du cinéma qu'elle est, quoi. Et du coup, il y avait un truc où, quand tu la vois, en fait, elle charrie déjà tout un univers, et voire même au-delà du cinéma, même médiatiquement, même c'est quelqu'un, quoi, tu vois. Et du coup, pour un acteur, ça c'est assez marrant parce que ça charrie vraiment beaucoup de choses, et du coup, ça te permet, toi, de presque moins en dire sur le personnage parce que la personne, ouais, a déjà un poids et représente déjà plein de choses, quoi. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ça nous a permis d'être peut-être un peu plus fin sur ce qu'on voulait raconter d'elle, ou d'en dire, ouais, d'être un peu plus ténu sur ce qu'on dit du personnage, parce qu'elle-même a déjà ouais, une présence hyper forte et hyper chargée de milliards de choses.
Et comme Béatrice Dalle a fait beaucoup de films, qu'elle a beaucoup d'expérience, est-ce que à la direction d'acteur, est-ce que vous la dirigez de la même façon? Donc, vous dirigez des acteurs plus jeunes, par exemple? Est-ce qu'elle avait des demandes particulières?
Non, de la même façon, mais peut-être, mais avec un énorme plaisir, parce que du coup, elle a à diriger, c'est du beurre. Je sais pas comment dire, mais elle est forte. Quoi. C'est vraiment une grande actrice, quoi.
Instinctive.
Ouais. Je sais pas, les gens. Mais Baptiste, ils sont balèzes. Il y a un truc où moi j'ai l'impression que souvent on dirigeait presque pas, en fait, ou en tout cas avec des caresses, quoi. C'est nous, on avait nos rails, et il fallait qu'ils rentrent un peu dedans. Mais en fait, ils avaient pour tous, franchement, ils avaient déjà presque tout compris, tout. Enfin, et puis ils font encore mieux que ce que tu pourrais leur dire, quoi. Ils sont, enfin, ouais, quand on dirigeait, j'ai l'impression que vraiment c'était juste des petites caresses pour réorienter un peu. Mais je veux dire, si on les a pris, c'est qu'ils avaient déjà tout du personnage. Ils font tout, quoi.
C'est qu'en fait, rien que le choix de l'acteur ou de l'actrice et sa rencontre avec une situation, un costume, un texte, enfin, bon, 90% de la direction d'acteur est faite, quoi. Après, oui, c'est ça, c'est juste poser des limites, quoi, dans ce qui est encore le personnage, qui ne l'est plus, ce qui n'est pas à ce moment-là. Faut juste, voilà, faut les...
Et leur donner de la confiance, leur dire, c'est génial ce que tu fais, continue. Genre, j'ai l'impression qu'on était plus dans ce mode-là de direction.
Oui, ça, de les accompagner avec une main dans le dos, quoi. Il y a un truc comme ça où tu exerces de légères pressions. Pour dire plus à gauche, plus à droite, quoi. Mais c'est vraiment.
Quand vous parlez d'un peu de côté pratique de réalisation, je suis curieuse de savoir comment vous travaillez concrètement, vous trois, parce que j'ai écouté vos entretiens précédents et vous dites que on prend la décision ensemble, mais j'aimerais un peu entendre des détails, des plus de précisions sur.
Tu penses qu'on mentait?
Ouais.
Que là, on va te dire la vérité.
Non, mais je veux dire, peut-être plus de. Est-ce qu'il y avait des frictions? Comment vous prenez des décisions?
Allez, on veut du croustillant, là.
Ouais, voilà.
Des gossips. En fait, des frictions, il n'y a que ça, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment à l'image de quand on fait n'importe quoi en groupe, et notamment entre amis, parce que nous, en plus de travailler ensemble, on est amis. C'est qu'on a. Souvent, c'est un peu le même procédé, quoi. Que quelle que soit la chose qu'on cherche à faire, et quel que soit le moment du film, quelqu'un a une idée, propose quelque chose, les autres réagissent dessus en disant soit ça les fait rire, soit ça les touche, soit ça les intéresse, mais pas exactement comme ça. Donc, ils vont dire, bah voilà, ils ont dit ce qu'ils en pensent. Enfin, voilà, ça crée une réaction, tout le monde réagit. Des fois, ça tombe à l'eau. On sent que c'était une idée qui. Parce qu'en fait, le seul truc qui est intéressant quand on est à trois, c'est que ça excite tout le monde, quoi. Si on sent qu'il y en a qu'un qui est motivé ou deux et l'autre, il comprend pas ce qu'on fait, ça a aucun intérêt. Enfin, autant faire des films tout seul, quoi, ou à deux. Mais là, on les faisait à trois. Et il se trouve que, quoi, c'est juste ce qui est long et à la fois excitant et laborieux, c'est qu'il faut passer beaucoup de temps à trouver les idées qui nous excitent tous les trois, quoi. Donc, il faut beaucoup se parler et il faut essayer de se comprendre et il faut, voilà, essayer de faire rire les autres. C'est tout un travail, essayer de faire comprendre aux autres exactement ce qu'on a en tête, c'est un travail. Mais une fois qu'on y arrive, c'est beau, quoi.
Et c'est un trio qui est installé, qui est amené à durer, justement, cette façon de travailler à trois.
Parce qu'on refera des choses ensemble d'une manière ou d'une autre. Oui. Après, là on n'a rien de précis, mais en tout cas, pas forcément réalisé tous les trois, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de modalités dans lesquelles on aurait plaisir à travailler ensemble, quoi.
Est-ce que vous assumez une certaine horizontalité dans le travail? Parce que vous avez aussi d'autres rôles sur le plateau. Je pense qu'Anton, t'es script, si je ne me trompe pas, t'es ingénieur de son, et Mathieu, il est le chef opérateur. Donc, comment le fait d'assumer ce rôle impacte le tournage?
Bah, qu'il l'impacte en bien, je pense. je pense.
Ah, pour nous, en tout cas.
Ouais.
Non, mais pour travailler avec de petites équipes, surtout, je pense, ça aussi diminue le. Vous partagez d'autres tâches aussi, donc ça crée une sorte de tournage plus intime. Et...
Ouais, voilà, ouais, c'est assez intime. Et surtout, je pense que pour nous, ça permet d'être pas beaucoup. C'est plus simple que tout le monde soit très au courant de ce qu'on est en train de faire. Du coup, donc, ça casse un peu le côté mystérieux qu'il pourrait y avoir à diriger ou à décider un peu de tout. Parce que c'est quand même une place où tu te retrouves à décider un peu de tout, en effet. Mais le fait d'être très peu et de bien se connaître, et en plus d'être déjà à trois, il faut décider à trois, donc on est déjà en train de discuter avant on décide pas juste, quoi. On est déjà en train de discuter à trois. D'être à pas beaucoup, je crois qu'il y a un truc où c'est plus simple d'être clair, quoi. Et c'est plus simple d'intégrer aussi du monde, quoi. C'est plus simple de faire à 15 qu'à 45 ou...
Il y a une chose que je trouve belle dans le film, j'y pensais là en pensant à la manière dont vous regardez les personnages dans le film, c'est-à-dire qu'il y a, plusieurs personnages, il y a des personnages qui apparaissent pas très longtemps, mais tous sont regardés avec une certaine hauteur de vue, enfin une dignité, j'ai envie de dire, une empathie par vous, et tous existent en fait, même quand ils apparaissent très peu longtemps. Et il y a une belle surprise dans le film, c'est que cette sœur que l'on entend au téléphone pendant longtemps dans l'histoire, Laurent l'a régulièrement au téléphone, et puis ensuite on a l'impression qu'ils se perdent de vue. Eh bien, elle apparaît dans la toute dernière partie du film, et je trouve qu'elle apporte quelque chose. En tout cas, ce moment où elle apparaît emmène le film vers une certaine douceur aussi, quelque chose qu'on n'avait pas eu dans la caractérisation de Laurent. Voilà, enfin, c'était une remarque que je faisais, vous pouvez rebondir dessus, mais je trouve qu'il y a une belle qualité de regard sur les gens, en fait.
Ouais, mais je pense que c'est exactement ce qui nous intéresse, quoi, quand on fait un film. Parce que dans la vie, nous, on adore rencontrer des gens, et c'est un peu bête, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est que découvrir des personnes, passer du temps à essayer à leur parler, à comprendre leur vie, à les voir être, quoi. Je pense que ça nous fait rire et ça nous émeut en même temps, et du coup et c'est un truc qu'on aime beaucoup faire à trois, parce que tout seul je pense que t'as moins le courage d'aller te jeter comme ça dans l'inconnu et voir des gens dans plein d'endroits que dans lesquels tu serais pas allé,
ou... personne à qui le raconter, quoi.
Ouais, puis on le vit à trois, donc on se le raconte, et du coup ça se retrouve dans le film, quoi. Je pense que quand même le scénario, quand on a commencé à l'écrire, c'était un grand prétexte pour filmer des personnages, quoi, et se dire ah, il y aurait lui, il y aurait elle, en plus tous ces gens vont être soit des acteurs qu'on a trop envie de filmer, avec qui on a trop envie d'être pendant quelques temps, soit on va les rencontrer, ça va être des gens qu'on aime. En fait, c'est ça, c'est que des gens qu'on aime et qu'on a envie de filmer, du coup pour nous c'est presque une dramaturgie en soi, de, comme tu dis, quoi, de se demander mais alors attends, lui je l'ai vu dans telle situation, mais si je regarde d'un autre côté, comment il va être. Cette sœur, par exemple, elle paraît super super angoissée au téléphone, très maternante aussi, puis en fait tout d'un coup on va se rendre compte que
il y a des fêlures chez elle,
voilà, son stress il est ailleurs, sa fragilité elle est ailleurs, et juste ça, ça peut être, pour nous ça peut tenir un personnage, et juste de le regarder de toutes les facettes possibles, quoi, et de prendre le temps de le regarder, quoi.
Et ce qui est beau d'ailleurs avec le personnage de la sœur, c'est que quand elle apparaît, eh bien c'est comme si un petit film dans le grand film s'ouvrait. Et vous nous racontez son histoire, et elle devient presque en fait le personnage principal dans ces quelques scènes. Je trouve ça très beau.
Et ça, c'est vraiment l'ambition de l'écriture.
Et sœur qui est jouée par Suzanne Debacq, qui est une super, super, superbe actrice.
Ouais.
Et qui a eu un papa qui a écrit des choses intéressantes.
Entre autres.
Avant de terminer, j'ai une question sur la temporalité. Comment, parce que ça commence avant la saison d'hiver, et je me trompe pas, non.
À l'automne.
C'est l'automne et on passe à l'hiver. Et ce sont des espaces assez bien définis par rapport aux saisons, comment vous avez déterminé à quel point le film va terminer? Donc, le trajectoire de Laurent va s'arrêter parce que c'est assez difficile, je pense, de déterminer dans un voyage si ambigu, si différent de ce qu'on entend par le voyage de héros. Donc il n'est pas un héros, c'est juste un homme normal comme nous. C'est difficile de, je pense, terminer une histoire qui peut très bien continuer pendant jusqu'aux des heures, quoi.
Peut-être une des clés, nous, de quand on a senti où est-ce que devait arriver, enfin où allait prendre fin son voyage, elle est dans le moment dont tu parlais, donc cette espèce de film dans le film, quand il y a son retour à Lyon. C'est le moment où il exprime enfin un désir clair, à savoir que à la montagne il a rencontré des gens qu'il aimait, et bon, il dit pas qu'il va s'installer là-bas, parce que lui-même dit je sais pas trop ce que je vais devenir là-bas, mais en tout cas là-bas il y a des gens que j'ai rencontrés et que j'aime, et nous on se disait qu'une fois qu'il avait pu exprimer ce truc-là, et donc du coup qu'il allait retourner à la montagne avec cette impulsion de je vais aller voir des gens à qui je tiens. Là, on sentait qu'on s'approchait de la fin du voyage du personnage.
Et puis, du coup, symboliquement, ça veut dire s'installer dans la maison de Lola, qui est en fait la première personne qu'il a rencontrée en se baladant, qui est la première maison qu'il a visitée. Il y a une boucle qui se bouclait, et on s'en est rendu. Enfin voilà, c'est venu très naturellement, quoi. Quand même, au fond, il a enfin trouvé le foyer de fortune qu'il cherchait depuis le début. Et après, on ne sait pas ce qui lui arrivera, mais
le logement. même pragmatiquement, très pragmatiquement, c'est quand même une des questions du film aussi.
Ah ouais, mais c'est ça qui nous faisait marrer. C'est on voyait parfois à un moment des versions du montage, on se disait, mais en fait, on se l'a déjà dit comme ça, mais c'est l'histoire d'un mec qui cherche un appart, et à la fin, il l'a trouvé, quoi.
Bah, merci beaucoup pour cette discussion. Donc, merci Anton, merci Léo pour d'être ici avec nous. C'est un spécial avant-première.
Le film sort le 31 décembre.
Voilà, 31 décembre. Pour un bon fin d'année, vas-y.
Et une bonne nouvelle année aussi. Oui. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Merci.
Fluxfort. Mécanisme velouté. Mixage fusionnel.